Radio Campus, il est 9h.
Elle s'appelle Ophélie Poyon et elle nous présente l'ancienne usine textile Tissel, emblématique de Roubaix. Elle a été ouverte en 1835 et fermée dans les années 2000. Ce lieu allie patrimoine industriel et innovation technologique. Elle a imaginé, pour lui, un escape game pédagogique, découverte de l'économie circulaire à travers 10 étapes interactives.
Bonjour, je m'appelle Ophélie Poyon et j'ai co-créé un escape game à Tissel, qui est un tiers-lieu sur l'économie circulaire à Roubaix.
On peut rappeler un peu l'histoire de cette grande entreprise qui a été Tissel ?
Oui, alors en fait, Tissel, c'est une ancienne usine textile qui, à l'époque, s'appelait Terninck Frères. C'est une des premières à avoir ouvert puisqu'elle s'est lancée en 1835 et c'est également une des dernières à avoir fermé dans les années 2000. Et donc, à l'époque, eh bien, on tissait, on tricotait. C'était une usine qui était d'ailleurs assez innovante parce que c'était parmi les premières à produire des pantalons pour femmes, ce qui était vraiment en rupture avec ce qui se faisait à l'époque. Donc, c'est un bâtiment qui est vraiment chargé d'histoire et assez symbolique de l'industrie textile roubaisienne.
Alors, quand on visite un peu le lieu, on voit des carnets avec des échantillons et classés par année, parfois par saison.
Exactement. Vous êtes passé là en salle des archives où en fait on a tous les documents d'archives de l'époque avec par exemple tous les petits livrets qui répertorient les différents tissus qu'on fabriquait ici à Terninck Frères. Et donc on voit par exemple qu'il y a la collection été 1926, hiver 1938, etc. avec des échantillons des textiles qu'on produisait et qu'on tissait ici dans l'usine.
Est-ce que des historiens se sont penchés sur le lieu ? Peut-être pour aussi définir les modes des échantillons, hein. Ça suivait sans doute la mode aussi, hein.
Alors mais là où on a de la chance, c'est que tous les documents d'époque, notamment ceux qu'on trouve en salle des archives, sont restés sur place. Et donc on a même pu les intégrer dans les visites, dans notamment l'escape game par exemple qu'on anime ici.
Donc le lieu maintenant, il est redevenu un espace de travail pour plusieurs entreprises. Comment s'est faite cette mutation ?
Exactement. Alors en fait, l'usine elle a fermé en 2000. Il ne s'est pas passé grand-chose pendant plusieurs années. Et ensuite, c'est la mairie de Roubaix qui a repris le bâtiment et qui a délégué la gestion du lieu à une association qui s'appelle les Manufactures Tissel et qui a décidé d'en faire un tiers-lieu sur l'économie circulaire. Tout en rénovant le bâtiment, parce que c'est une très vieille usine, donc on l'habite alors qu'on est encore en train de la rénover, et ça c'est vraiment un choix. C'est plutôt que de construire du neuf ou d'attendre que ce soit refait complètement à neuf avant d'emménager, eh bien on emménage dans le bâtiment tel quel et on le construit au fur et à mesure qu'on développe nos entreprises. Aujourd'hui donc il y a 8 structures qui sont hébergées à Tissel, qui ont toutes pour point commun de travailler dans l'économie circulaire et d'être des manufactures. Par exemple, on a Lavier Belt qui produit des accessoires de mode upcyclé à partir de déchets, donc par exemple des ceintures à partir de pneus de vélo. Il y a aussi Recycle-moi, qui est la plus grande recyclerie de vélos en France, donc qui répare des vélos et qui les revend. Il y a également Joint fait le lin, qui produit des vêtements en lin tricoté. Et donc toutes ces structures-là ont pour ambition déjà de relocaliser des manufactures en cœur de ville, de reproduire à nouveau, de participer au redéveloppement textile roubaisien, mais aussi de produire avec vraiment cette idée de on va respecter la matière, respecter l'environnement, limiter au maximum notre utilisation de ressources et notre production de déchets. Et donc c'est ça ce qu'on appelle l'économie circulaire en fait. C'est une économie qui est beaucoup plus respectueuse de la planète, mais aussi des humains. On forme également beaucoup de personnes à ces métiers de manufacture ici à Tissel et ça fait aussi partie de nos valeurs.
Et puis il y a aussi donc ces matériaux de base, hein, on en a évoqué quelques-uns, qu'on essaie de trouver localement.
Exactement. Le meilleur exemple, je pense, c'est Joint fait le lin, qui est une entreprise qui a été fondée par Augustin. Augustin, il fabrique des t-shirts, des shorts en maille de lin tricoté. Et le lin, il provient de Normandie, de Belgique. Il est tricoté ici dans l'usine de Tissel. Et ensuite, il est assemblé juste à côté dans un autre lieu à Roubaix.
À Roubaix, il y a peut-être une école de mode. Est-ce qu'éventuellement, il y a des connexions possibles ?
Oui, il me semble que c'est avec eux, à vérifier avec Augustin, mais c'est eux d'ailleurs qui assemblent les vêtements de Joint fait le lin. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, sur cet aspect formation, on a pour projet à Tissel de créer une école de la réparation Donc ça, c'est un projet qui est piloté notamment par Antifashion, une des associations qui réside ici, en collaboration avec d'autres marques engagées, comme par exemple Veja. Et donc l'idée, c'est de former des personnes à la réparation, notamment de cordonneries, ce qui est dans l'esprit de l'économie circulaire également, parce que quand on répare nos vêtements, nos chaussures, ils durent plus longtemps. Et donc, on est dans l'inverse de la fast fashion où on achète toujours plus et on doit donc produire toujours plus, utiliser plus de ressources. Réparer, c'est une des clés de l'économie circulaire.
Il y a de nombreux lieux industriels, historiques, hein, qui ont été abandonnés, puis restaurés, réintégrés à une vie pas forcément industrielle, ça peut être culturel, je pense à la condition publique. Hein. Voilà, donc ça fait partie d'un ensemble.
C'est ça. L'idée, en fait, c'est plutôt que de construire du neuf, c'est d'utiliser, de revaloriser ce patrimoine historique, industriel qu'on a à Roubaix. Déjà parce que c'est un cachet incroyable. Enfin, l'usine est belle. On retrouve vraiment toute l'histoire du textile roubaisien à l'intérieur. Mais aussi, pour nous, ça a aussi énormément de sens parce que le fait de réparer, de rénover de l'ancien, c'est aussi de l'économie circulaire. Parce qu'on produit moins de déchets, on ne va pas détruire un bâtiment. On utilise moins de ressources parce qu'on ne va pas chercher des nouveaux matériaux pour construire neuf. Et donc, c'est beaucoup plus sobre et c'est beaucoup plus aligné avec une manière d'habiter la ville qui est respectueuse de la planète.
Nous sommes toujours avec Ophélie Poillon à l'usine Tissel de Roubaix, dont le projet a été redéfini autour de quelques concepts qui sont dans l'air du temps, dans la région Hauts-de-France, notamment dans les projets REV3 qu'elle soutient pour répondre aux défis des transitions énergétiques, économiques et sociétales. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé dans la région, et pas que dans la région, sur le fait de ne pas tout jeter, pas tout brûler en termes de déchets, mais recycler, upcycler aussi, on peut peut-être faire la nuance entre les deux.
Exactement. En fait, quand on fait de l'économie circulaire, on peut faire des boucles plus ou moins longues. La plus longue, c'est recycler. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on prend vraiment un déchet qu'on va devoir venir collecter, traiter, broyer, mettre potentiellement des produits chimiques pour refaire une matière première à part entière. Par exemple, c'est ce que fait Dagoma. Dagoma, c'est une entreprise ici à Tissel qui fait de l'impression 3D. Ils utilisent des bioplastiques, donc par exemple du plastique à base de moules qui ont été broyés, recyclés pour faire du filament de bioplastique pour imprimer 3D. Ça, c'est le recyclage, c'est la plus longue boucle. Mais l'idéal, c'est de faire des boucles les plus courtes possibles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, plus la boucle est courte, et moins on va devoir travailler la matière, moins il y aura de gaspillage, plus ça va être frugal en énergie, etc. Donc par exemple, l'upcycling, c'est ce que fait la Vie Belt, où ils vont réutiliser un déchet, mais ils ne vont pas complètement le traiter, le broyer, etc., pour en faire un nouvel objet. Par exemple, ils utilisent des pneus de vélo pour faire des ceintures. Une boucle encore plus courte, c'est la réparation. Donc, par exemple, Recycle-moi récupère des vélos, ils les réparent, donc ça reste le même objet, et ils les revendent. Donc, ça aussi, c'est ultra valorisant. Et il y a des boucles même encore plus courtes, comme le partage. Par exemple, à Tissel, on partage beaucoup d'espaces communs. On partage des choses toutes bêtes, comme la machine à café, ou on partage aussi, par exemple, une petite camionnette entre les différentes usines. Ça permet, en fait, vraiment d'optimiser l'utilisation de chacun de nos objets et de nos espaces. Et donc, plutôt que d'en acheter plein, on en a un qu'on mutualise, qu'on partage. Et donc, c'est plus sobre en ressources. Et en plus, ça crée des liens.
Il semblerait qu'on soit arrivé à un moment de réflexion où consommer responsable s'impose.
Oui, ça fait un moment. En fait, aujourd'hui, consommer responsable, c'est d'abord la sobriété. C'est refuser de consommer quand on n'en a pas réellement besoin. Et ensuite, quand on a besoin de consommer, effectivement, on consomme de manière intelligente. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mutualiser et partager ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut acheter avec des matières premières qui sont plus nobles, en circuit court et de proximité ? Toutes ces questions-là sont vraiment primordiales aujourd'hui si on veut relever le défi environnemental de demain.
Voilà, donc vous, en tant que personne intégrée au lieu, vous avez une activité qui s'y déroule. On peut peut-être la présenter votre entreprise.
Bien sûr. Alors en fait, donc à Tissel, il y a ces 8 entreprises qui résident ici. Mais ce qu'on fait aussi, c'est qu'on reçoit des entreprises externes qui viennent en séminaire. Donc on a une énorme salle de séminaire qu'on loue. Et on fait également des voyages apprenants, ce qui permet en fait aux entreprises qui viennent en séminaire de s'inspirer de ce qui se passe à Tissel et de se former à l'économie circulaire. Du coup, on fait par exemple des visites de l'usine. Moi, à titre personnel, ce que j'ai créé ici à Tissel, c'est cet escape game, donc un jeu d'enquête qui se déroule dans les 11 000 mètres carrés de l'usine, où on découvre en fait qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire et comment est-ce qu'elle est pratiquée ici à Tissel. Donc, il y a au total 10 étapes de l'enquête et à chaque étape, on va découvrir une des structures de Tissel et un des aspects de l'économie circulaire. Par exemple, on va découvrir le réemploi avec la vieille belt, la réparation avec Recycle-moi, le circuit court et de proximité avec Join Fait Le Lin, le zéro déchet avec les trois tricoteurs, etc.
Donc ça suppose que vous ayez suffisamment de personnes pour se répartir en groupe, que ce soit dynamique.
Exactement. En fait, alors l'escape game, on peut l'animer à partir de 4 joueurs. C'est sûr qu'il y a un petit peu moins d'ambiance, mais on peut même monter jusqu'à 80 joueurs à la fois. Parce qu'il est tellement grand et il y a tellement d'étapes qu'on peut avoir jusqu'à 10 équipes qui jouent en simultané. Le but étant d'être la première équipe à trouver le trésor des manufactures que les anciennes ouvrières de l'usine ont dissimulé quelque part dans les lieux et qu'il faudra retrouver grâce aux indices qui sont éparpillés à travers l'usine.
Voilà, donc un jeu qui donne une idée aussi d'une sorte d'histoire du passé de cette entreprise et de son avenir, donc positive, optimiste.
Eh ben, je ne vous divulgage pas parce que vous aurez la réponse si vous trouvez le trésor. Mais oui, effectivement, l'enquête en fait, se focalise à la fois sur ce qui se passe aujourd'hui à Tissel, donc comment est-ce qu'on produit, mais il y a aussi un aspect historique de l'enquête où vous découvrez l'histoire du textile roubaisien, l'histoire spécifique de l'usine Tissel. Et on se rend compte finalement au fil de l'enquête qu'entre ce qui se passait à Tissel hier et ce qui se passe aujourd'hui, on retrouve certaines valeurs qui n'ont pas changé. Le fait de produire en cœur de ville, la solidarité entre les ouvriers, le fait de valoriser le savoir-faire, le savoir fabriquer, le fait de produire localement, en circuit court, avec des partenaires ultra locaux, tout ça, ça n'a pas changé et c'est des valeurs qu'on veut garder en développement Tissel demain, aujourd'hui au 17 rue du Nouveau Monde et demain, pourquoi pas, dans d'autres lieux liés à d'autres industries qui peuvent intégrer l'économie circulaire dans leur mode de production, que ce soit le bâtiment, le textile, etc.
Donc Tissel, T-I-2-S-E-L, il y a un site web ?
Oui, tissel.org.
Voilà, donc pour tous les amateurs d'expérience, c'est l'occasion.
Exactement, on sera très heureux de vous recevoir à Tissel pour vos team building, séminaires. Pour l'instant, on n'accueille pas encore du public parce que le bâtiment en entier n'est pas ERP. En revanche, on peut accueillir des travailleurs, donc vous pouvez venir avec votre entreprise, votre structure en séminaire et on animera des visites, des escape games et plein d'autres activités avec grand plaisir.
Merci à Ophélie Poyon pour cette visite complète qu'elle propose au public et qui permet de découvrir cette usine Tissel sous toutes ses coutures. C'était un reportage à Roubaix de René Lavergne de Radio Campus Lille.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Écoutez Radio Campus Lille sur le 106,6 FM ou sur le www.campuslille.com.
À l'hôtel des courants d'air, y a de plus en plus de locataires. À l'hôtel des courants d'air, les loyers sont pas chers. À l'hôtel des courants d'air. À l'hôtel des courants d'air, y a pas d'air conditionné, y a pas non plus frigidaire, le rouge attendant la rivière. À l'hôtel des coups rangs des à l'hôtel des salon à ciel ouvert, dans le ciel plus de trois étoiles, sur les murs des maîtres de toile, à l'hôtel des courants des
Des paysages bouleversés par l'extraction minière. Tel est le thème de l'exposition d'art contemporain visible en ce moment dans la salle des douches de l'ancien site minier du 99 bis de Wani, entre Douai et Lens. L'exposition Révéler l'impact réunit les œuvres de 13 artistes et tente de rendre visibles les répercussions que les mines de charbon ont sur nos paysages et nos territoires encore aujourd'hui. Retrouvons une artiste locale, Tena Beaumont plus précisément, qui expose ses œuvres. C'est Catherine Sgorecki qui présente des empreintes sur des tôles métalliques. Et avant, quelques mots de Sophie Huc, commissaire de cette exposition, Révéler l'impact.
C'est la deuxième année consécutive qu'on travaille sur des expositions qui mêlent patrimoine et art contemporain. Et donc on a choisi de travailler sur cette année sur l'impact des extractions minières. Mais c'est vrai, quand on parle d'impact, ça peut être très très large. Ça peut être l'impact sur les paysages, sur les sols, les sous-sols, l'impact sur la santé, l'impact sur les populations, etc. Et donc on s'est vite rendu compte que ça allait être un sujet beaucoup trop large et qu'il fallait absolument qu'on resserre. Donc on s'est vraiment concentré sur l'impact des extractions minières sur les paysages, les sols et les sous-sols. Donc on met de côté toute la partie plutôt liée à l'humain, l'histoire sociale, etc. Mais voilà, pour se concentrer vraiment sur ces paysages. Alors, parler de l'impact, c'est aussi parler des outils des mineurs qui créent cet impact. Donc, dans une des vitrines de l'exposition, on montre justement les différents outils. Ça aille du pic au marteau-piqueur qui permettait de créer cet impact. Et c'est vrai, quand on a fait la sélection des œuvres, ça m'a fait penser à un travail d'une artiste locale qu'on aime beaucoup, qu'on avait déjà eu l'occasion d'exposer ici au 99 bis dans la salle des douches, qui s'appelle Catherine Sgorecki et qui travaille depuis pas mal d'années maintenant sur des empreintes de territoire où justement elle va utiliser ses outils. Elle vient un petit peu à la manière des mineurs pour montrer des vestiges encore de ce territoire, des vestiges miniers bien apparents ou au contraire qui ont disparu depuis. Et donc on a la chance d'avoir pour le coup Catherine avec nous aujourd'hui qui parlera de son travail beaucoup mieux que moi.
Je vais peut-être faire une petite introduction, effectivement, pour reprendre les propos de Sophie juste avant. Effectivement, c'est un travail de territoire, c'est un travail de mémoire. C'est un travail sur la mémoire d'un territoire, en l'occurrence le mien, dans la mesure où j'habite le bassin minier depuis que je suis née. Techniquement, ce sont des empreintes qui sont réalisées par martelage sur un certain nombre de sites identifiés par moi-même ou des sites dont on m'a parlé et que j'ai envie de mettre en valeur au travers de ce travail. Voilà, c'est des sites à côté desquels vous pouvez passer sans forcément vous rendre compte de l'importance du travail. Il y a tout l'aspect social aussi derrière ce travail. Voilà, donc l'idée, c'est aussi au travers de ce travail de mettre en valeur toute la vie qui a pu mener à l'existence aussi de ces différents lieux.
Et c'est en quelle matière et comment ça se passe pour fabriquer cette œuvre ?
Techniquement, j'ai un certain nombre de marteaux à ma disposition qui iront plus ou moins dans le détail des formes que j'ai envie d'obtenir. Un marteau plutôt pointu qui s'appelle une piquette, qui est un marteau de soudeur. Un marteau plutôt semi-sphérique qui s'appelle un rivoir, qui va me servir à définir des surfaces plutôt planes, dans tous les cas, de permettre de faire en sorte de les ressortir. Voilà, j'ai un panel de marteaux qui sont plutôt légers. Beaucoup de personnes me disent que c'est un travail extrêmement physique. En fait, c'est plus un travail de patience. Moi, je me dis juste en arrivant sur un site que j'ai le temps. Voilà, j'ai le temps de prendre l'empreinte. Donc, j'adapte mes outils en fonction du matériau qui se trouve sous la feuille d'acier ou sous la feuille de zinc que j'utilise.
Oui, c'est l'idée, de poser cette plaque sur un endroit que tu as choisi et de pouvoir marteler. Alors, ça dure combien de temps ? Puis ensuite, on voit la rouille, choses comme ça. Donc, il y a plusieurs étapes, c'est ça ?
Oui. Le martelage, c'est un vrai travail de patience. Généralement, c'est une période où j'entends très peu, je vois très peu ce qui se passe autour de moi. Je suis vraiment concentrée sur la surface. C'est un travail que je ne peux pas faire seul. On est obligé d'être à deux personnes. C'est-à-dire qu'il me faut une personne qui leste la feuille d'acier ou de zinc pour, tout au moins dans les premiers temps, faire en sorte que la feuille ne bouge pas. Une fois que les premiers points d'ancrage sont réalisés, là, voilà, je peux me permettre de laisser la feuille à disposition sans lestage nécessaire. Mais dans les premières phases de l'empreinte, oui, il faut une personne qui soit avec moi et qui progresse avec moi dans la prise d'empreinte. Cette prise d'empreinte qui peut durer, généralement, c'est une demi-journée. Pas sur site, hein. Sur site, c'est beaucoup plus de temps, mais une demi-journée de prise d'empreinte.
Et comment ça se passe pour l'érosion, voilà, les traces de rouille, par exemple ?
Ce qui m'intéresse là, en l'occurrence, dans les œuvres qui sont exposées ici au 99 bis, c'est le fait de montrer des œuvres sur lesquelles le temps a posé également son empreinte, comme une espèce de mise en abîme. C'est-à-dire que là, ce que vous allez voir ici à l'exposition sont des feuilles d'acier, donc l'acier étant un métal ferreux qui va s'oxyder sous l'effet de la pluie, sous l'effet de l'humidité. Donc un certain temps, quelques semaines, parfois quelques mois, je laisse l'empreinte une fois réalisée. Il faut s'imaginer qu'une fois réalisée, la feuille d'acier, elle est immaculée, elle est encore très brillante, mais je laisse cette matière s'oxyder avec le temps. Et je décide après de fixer l'ensemble pour que la rouille n'évolue plus sur le support.
Les empreintes sur tôle métallique présentes dans l'exposition Révéler l'impact au 99 bis de Wany ont souvent des formes abstraites. Un des objectifs est de faire marcher l'imagination chez les visiteurs, comme l'explique Catherine Sgorecki, artiste plasticienne d'Hénin Beaumont.
Moi, je sais où ont été créées les empreintes et je sais comment les raconter. Mais j'ai conscience aussi qu'une fois encadrée ou une fois posée sur un socle, par exemple, voilà, cette matière-là, elle prend un autre sens. Elle prend un sens peut-être plus graphique, puisque moi, au moment où je construis l'empreinte, je la construis aussi en fonction de mon vécu. C'est composé un peu comme une photo ou comme un tableau, en fait. Après, c'est culturel, c'est l'histoire que tu as vécue qui te fait réfléchir comme ça et composer comme ça. Mais voilà, moi, c'est ma façon de faire les choses en fonction de tout ce que j'ai reçu. Et j'ai cette tendance, effectivement, à essayer d'imaginer avant de réaliser l'empreinte, essayer d'imaginer et de composer. C'est-à-dire que la feuille, quand tu viens la poser, donc généralement au sol, tu essayes de réfléchir aussi à une façon de positionner ta feuille. Parce que ce n'est pas un négatif, ça reste un positif. Donc tu as une idée assez précise du rendu final. Si j'ai envie de quelque chose d'assez orthogonal, je ne sais pas comment on dit. On a plus le résultat qui peut être ici, qui a été pris au 11-19 de Los Angeles. Et juste à côté, voilà, si j'ai envie de ce léger décalage, quelque chose qui casse un peu la symétrie, c'est aussi une empreinte qui a été réalisée au 11-19 dans la salle des culbuteurs. Voilà, il suffit de décaler légèrement la feuille pour avoir cette dynamique différente.
Et ça prend du temps, marteler, à faire une des œuvres, ça prend beaucoup de temps.
Un process complet, je dirais 3 mois. Puis il y a toute cette phase de prospection aussi. Parce que tu peux aussi te dire, bon allez, je vais aller sur un lieu, je vais y aller, je vais prévenir personne, je vais faire l'empreinte. Mais généralement, il y a toute cette phase de prospection où tu vas à la rencontre des gens, ce qui te permet aussi d'en apprendre plus sur le lieu. Tu prends des notes, tu prends une date aussi, une rencontre. C'est parfois les autres aussi qui te permettent d'accéder à ces lieux. Tous les lieux ne sont pas accessibles à chacun d'entre nous. La majeure partie, oui, mais d'autres lieux sont soumis à validation. Donc ça prend du temps. La phase de prise d'empreinte, le vieillissement aussi qui fait partie du process, l'encadrement qui soit mural ou sur socle, qui fait aussi partie de la réflexion.
Ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans le travail de Catherine, t'en parlais au début quand tu disais que c'était aussi un travail de mémoire, c'est qu'on a vraiment la sensation d'un travail d'archéologie industrielle presque, parce que quand on voit un carreau de fosse comme le 99 bis, comme la fosse 11-19 à Los Angeles, c'est des éléments patrimoniaux aujourd'hui évidents, mais en fait il y a parfois simplement des murs de coron, des petits bouts de fosse qui n'ont pas été détruits, qui aujourd'hui sont cachés sous de la végétation, ils sont à l'abandon, et c'est aussi des prises d'empreintes que tu as faites, et c'est aussi des éléments qui, depuis ces prises d'empreintes, je pense à peut-être la fosse 1 du côté du parc des îles, ou un coron à Auchel que tu as fait, qui aujourd'hui en plus ont été détruits. Et moi ce que je trouve intéressant, c'est que ça veut dire que les empreintes du coup qui restent sont les seuls témoignages à l'échelle 1-1 de ces éléments patrimoniaux qui ont disparu. Donc je trouve qu'il y a un travail aussi qui est hyper intéressant de mémoire, d'effacement de mémoire, de recherche aussi, et une recherche qu'on va avoir aussi sur les cartels, parce que je ne sais pas si vous avez fait attention sur les cartels. Catherine, toi, tu as souhaité qu'il y ait des petits flashcodes qui renvoient justement vers les lieux où les empreintes ont été prises. Enfin, je trouve que c'est une belle manière aussi de nous encourager à aller à la recherche de notre histoire, de notre mémoire, parce qu'en fait, tout ça peut très vite disparaître et s'oublier. Donc ça, c'est une dimension peut-être plus philosophique, mais je sais que nous, on insiste beaucoup aussi en visite là-dessus, surtout auprès des habitants du territoire, des enfants qu'on reçoit en visite. C'est-à-dire, il faut toujours être curieux de notre histoire, parce que surtout une histoire industrielle, ça reste un patrimoine assez fragile et une histoire assez fragile, parce que peut-être pas considérée comme la plus glorieuse qu'on ait, ou je sais pas trop. C'est un patrimoine qui est encore un petit peu mal aimé. Et donc vraiment, on invite les gens à aller à la recherche de leur histoire et de ce patrimoine-là. Et je trouve que c'est un travail qui encourage aussi à ça.
Oui, juste petite précision aussi, en complément de ce que vient de dire Sophie, c'est que les empreintes n'ont pas de titre véritable. En fait, le titre de chaque empreinte, en réalité, ce sont les coordonnées de géolocalisation. Tu parlais d'un travail d'archéologie. Le fait de rassembler toutes ces empreintes, on pourrait le faire sur une carte, ce qui permettrait d'avoir aussi précisément la localisation de chaque endroit et en fonction de chaque coordonnée, de restituer un territoire. C'est aussi ça l'idée. Pour aller juste un petit peu plus loin, là dans la suite de ma démarche, ce que j'ai envie de faire, c'est de renseigner un peu mieux, puisque toutes ces choses-là, moi, je les ai en tête, mais je ne les transmets pas forcément. Donc là, ce que je voudrais faire sur la prochaine prise d'empreinte, que j'ai déjà en tête, c'est renseigner, rédiger une espèce de cahier en allant chercher des informations, en allant croiser des gens, en allant prendre des photos, en récupérant des photos d'archives. Mais alors, je ne suis pas archéologue, mais dans tous les cas, ce travail historique qui était fait préalablement. Parce que sur certains lieux, je n'ai pas forcément la solution tout de suite. Alors, par exemple, la prochaine empreinte que je veux faire, c'est au 11-19 sur un socle, donc je n'ai absolument pas les qualités, les spécificités d'origine. Néanmoins, je sais que ce socle est un endroit précis, je sais qu'à cet endroit, il se passait des choses. Donc cette empreinte, je vais la faire, mais ça me permettra de parler de cet endroit pour le documenter et puis aller chercher des infos qui ne sont pas forcément répertoriées sur un site, mais sur plusieurs sites, où je vais aller glaner des infos. Il reste encore des anciens mineurs qui sont bien, bien, bien plus compétents que chacun d'entre nous ici, pour vraiment aller à l'essence de l'histoire de ce lieu et de cet endroit dans le lieu.
C'était Catherine Sgorecki, artiste plasticienne d'Ena Beaumont, qui présente des empreintes sur tôle métallique dans l'exposition « Révéler l'impact », visible jusqu'au 7 décembre 2025 dans la salle des douches du 99 bis, ancien site minier de Wany, entre Douai et Lens. Et vous avez pu entendre aussi Sophie Huck, commissaire de cette exposition. Pour avoir plus d'informations, rendez-vous sur le site 9-9bis.com. Interview faite avec Elsa de Micro Rebelle et réalisation de Jérôme Bailly de Radio Scarp Sensé.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
L'association La Récréation vous donne rendez-vous les 14 et 15 juin 2025 à Fléchin pour le festival d'art de rue Mais où va-t-on ? Théâtre à ciel ouvert, en forêt, cirque aérien, marionnettes sur banc public, danse percutante, concerts déjantés, entresorts participatifs, venez découvrir une programmation éclectique, joyeuse, engagée et poétique pour rêver, rire et résister ensemble. En complicité avec les habitants du territoire. Infos et programmes sur l-arrêt-création.fr. Quiet.
Mes yeux et mes oreilles petit à petit s'éteignent. Allez, mon âme de garçon sauvage, je vous le dis, prenez en acte. Mon âme de garçon sauvage est toujours intacte. Si mes genoux se déboîtent, si je couine quand je me gratte. Allez, mon âme de garçon sauvage, je vous le dis, prenez en acte. Mon âme de garçon sauvage est toujours intacte. J'ai chanté devant les églises pour quelques miettes de pain. Pourtant j'ai trouvé asile dans le lit d'une catin. Dans le lit d'une catin. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. Du soir au petit matin, je vous l'assure. J'ai vécu en troubadour sur les rivages lointains. Pourtant j'ai trouvé l'amour juste là dans mon jardin. Juste là dans mon jardin. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. Pas besoin de voir plus loin, je vous l'assure.
Les Chasse-Patates mêlent leur passion pour la musique et pour le vélo à travers des titres humoristiques, en hommage notamment à de nombreux cyclistes. Après un premier album en 2021, ils viennent de sortir leur deuxième, nommé Nouveau Vélo. Pour en parler, deux membres du groupe que je laisse se présenter eux-mêmes.
Alors moi, c'est Laurent Mignon.
Tout simplement, parce qu'il est mignon.
En hommage au cyclisme.
À Laurent Fignon. Et moi, c'est Guillaume Traîneur.
Par rapport au Homme Traîneur.
Voilà.
Côté sportif.
Et bah, sur le vélo, quoi.
Ouais. Évidemment.
Ouais. Donc d'habitude, on est plus nombreux. Hein. Il y a Eric Van Der de Poel qui devrait être ici. Il y a aussi Jean-Bernard François, Patrick Chapat, Jean-Paul Chêne, et les Sœurs Longo.
Et les Sœurs Longo.
Jeannine et Jeannette.
Qu'on embrasse.
Oui. Qu'on embrasse très fort.
Les Chasse-Patates, vous venez de fêter vos 10 ans. Vous venez de sortir aussi votre deuxième album. On va retourner d'abord il y a 10 ans. Qu'est-ce qui a fait que vous avez créé ce groupe ? Vous êtes déjà intermittent de spectacle depuis un moment. Pourquoi avoir créé les Chasse-Patates ?
Alors, Patrick Chapat, qui est du coup un des membres fondateurs de ce projet, nous a dit un soir, ben voilà, les gars, il nous avait emmené aux douches du Vélodrome du Paris-Roubaix, il nous a dit, ben les gars, en fait, on va faire un projet tous ensemble et vous allez faire des chansons sur le thème du vélo. Et là, on s'est regardé, on s'est dit, ben, il est en train de se moquer de nous. Et pas du tout, en fait, il a vraiment monté le projet de A à Z avec une setlist de reprises qu'il avait choisies sur Bid et Musique. Donc ça en dit long sur les morceaux choisis. Et du coup, de fil en aiguille, on a continué le projet puisqu'on avait joué donc ce one-shot qui devait être prévu pour l'auberge Paris-Roubaix. Donc à l'époque du Paris-Roubaix, il y a toujours une auberge qui a lieu à Roubaix, organisée par le Carpodium. Et on a joué un concert ce soir-là. Il y avait un grand monsieur du vélo aussi, Cyril Crépel, donc qui nous a dit bah, « Les gars, en fait, c'est super ce que vous faites. » Et moi, j'organise l'île Ardelot et j'aimerais vous faire venir jouer sur ma course, enfin sur ma randonnée plutôt, parce que c'était pas une course, hein, c'était plutôt une rando cyclo. Et on a dit bah ok, et donc il nous a fait venir et puis voilà, l'histoire a continué et on s'est mis à composer nos propres chansons avec Guillaume Trainer ici qui à la guitare nous fait des riffs
endiablés.
Et donc du coup, on a commencé à composer des titres et on a réussi à enregistrer un premier album qu'on a appelé Fait du vélo en hommage à Georgette Plana. Et du coup, de fil en aiguille, bah, 10 ans d'existence maintenant et un deuxième album qui est sorti du coup le 16 mai.
Et toujours 10 ans d'âge mental, comme vous le dites
exactement
sur votre site.
Oui, c'est 10 ans.
Je sais pas qu'est-ce qui a dit ça, mais moi je suis plutôt à 12.
C'est pas mal.
Moi je suis plutôt à 8, donc c'est une moyenne.
Voilà, c'est une moyenne, exactement. Dans ce premier album, d'abord, donc Fait du vélo, vous rendiez hommage à de nombreux cyclistes parce que de toute façon, déjà à la base, vous êtes tous passionnés de vélo.
Oui.
Donc déjà, c'est un gros point commun. Mmh. Un de vos plus grands succès, c'était David Boucher.
Oui.
Vous pouvez nous en parler un peu de ce titre?
David Boucher, c'est l'éternel loser. Un peu comme nous, comme les chasse-patates, parce que l'expression chasse-patate vient des coureurs qui se retrouvent entre le peloton et les échappés. Et en général, on parle pas d'eux parce qu'ils n'arrivent pas à rejoindre l'échappée et ils se font rattraper par le peloton. Donc voilà. Et David Boucher, c'était un peu, il finissait jamais la course. Une fois sur le Paris-Roubaix, il s'est retrouvé bloqué par un train. Enfin, c'est voilà, il n'y a pas de chance. Donc voilà, c'était normal qu'on fasse une chanson sur lui.
Pour lui rendre hommage.
Et vous avez un retour carrément.
Ah oui, bah ouais, ouais. Après avoir écouté la chanson, il s'est filmé en train de chanter la chanson sur son vélo en s'entraînant. Donc c'était assez rigolo, c'était marrant.
Il a envoyé la vidéo.
Le clin d'œil.
Il est content.
Ouais.
Parmi les autres titres phares, on pensait c'était un ou deux encore.
Ton vélo, qu'on a fait avec Yehou, il y a un clip avec Fred Touche,
ouais,
qui participe à l'album.
Daniel Mangas, qui rend hommage à la voix.
Le grand commentateur.
Voilà, exactement.
Voix du Tour de France pendant tant et tant d'années. Qu'est-ce qu'il y en a, il y en a plein.
Les Rois de la Pédale, avec Didier Vampasse, qui est présent sur l'album.
Qui est d'ailleurs votre coach vocal.
Qui est notre coach vocal, oui.
Ouais.
Ça veut dire quoi? Il vous...
Bah, il nous coach.
Il vous coach, oui, mais vocalement, mais pas que. C'est ça aussi, c'est,
bah, sur l'énergie,
c'est des conseils,
ouais,
aussi.
Oui, ouais.
Sur le vélo.
Sur le vélo, ouais.
D'ailleurs, on peut entendre et voir ces conseils, puisqu'ils seront visuellement et auditivement disponibles sur...
à la fin du clip Fait du vélo.
Voilà, sur les réseaux, vous pouvez trouver sur le clip Fait du vélo, les images avec Didier Guimard et les chasse-patates.
On le précise, c'est du rock'n'roll,
bah oui,
que vous faites. Du rock et du vélo.
Voilà,
rock'n'roll.
Un mélange de rock et de vélo. Donc, nous sommes les seuls au monde, jusqu'à présent, à faire ce style musical qui est le rock'n'roll. Et on a inventé aussi un autre style musical qu'on joue dans le nouveau spectacle qui sera présenté du coup le 4 juillet. au Grand Sud, à Lille, pour la sortie de fête de l'album. Et c'est le Slove, parce qu'en fait, on s'est aperçu que si on prenait les lettres de vélo et qu'on les mélangeait dans un petit sac et qu'on les ressortait, on pouvait faire le mot love.
Oh.
Et on s'est dit que si on prenait le slow et qu'on le mélangeait au vélo, on pouvait peut-être inventer un nouveau style musical qui s'appellerait le slove.
Mais on peut pas faire un slow en vélo, par contre, c'est un peu compliqué.
Si, c'est possible.
Faut aller tout doucement.
Voilà.
Ouais.
Ouais.
Faut d'un synchro, quoi.
Voilà.
Ouais. On le précise, donc vous êtes quatre musiciens, il y a deux présentateurs et trois ambianceuses choristes. Vous venez de le dire, c'est un spectacle que vous proposez, c'est pas un concert.
Alors il y a plusieurs formules, mais ça nous arrive parfois de, comme on est un peu tout terrain, de jouer soit à 4, à 6, à 9, on essaye de s'adapter.
Mais c'est un vrai show, quoi.
Oui. Mais à chaque fois, ça reste en tout cas un concert. Même quand on dit spectacle, ça reste quand même dans une énergie de concert. Et on présente surtout un concert plutôt que d'essayer de faire du théâtre, du sketch. Ou du, après, c'est...
C'est un spectacle rock'n'roll.
Oui, c'est ça.
Le 4, ça va être un spectacle rock'n'roll.
Oui.
Pourquoi on... Donc, il y a deux présentateurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se déroule, un show, un concert avec vous?
Les présentateurs, c'est un peu ils présentent un peu la course, comme si le spectacle c'était une course. Il y a un début, il y a une arrivée, on va gravir les sommets, on va et eux participent, ils ambiancent la course. Voilà, c'est ça en gros.
Et les ambianceuses servent à ça.
Donc
aussi.
Les ambianceuses chantent aussi, elles sont choristes. Elles viennent dans la salle, ambiancer la salle, et sur scène, il se passe plein de trucs.
On n'est pas à l'abri d'une farandole qui pourrait éventuellement se dérouler lors du concert.
Même deux.
Même voire deux ou trois, après ça dépend. Mais en tout cas, c'est...
Il se passe plein de trucs, il se passe plein de trucs sur scène, c'est rigolo.
Donc vous l'avez dit d'ailleurs, parmi les prochains concerts, le 4 juillet, vous allez dévoiler votre deuxième album avec ce concert au Grand Sud à Lille, le bal des cyclistes. Et ce nouvel album, on en parle aussi, nouveau vélo, toujours des hommages à des cyclistes. On peut savoir un peu lesquels, ce qu'on peut écouter dans cet album?
Eddy Merckx.
Bernard Hinault,
c'est le blaireau.
John Gadret, par rapport au Pantani et Terry. Et puis après, on s'est dit justement qu'on allait aussi un peu élargir le spectre de notre vélo sur un champ plus large de sujets, de monsieur et madame tout le monde, parce qu'il n'y a pas que des champions de vélo. Il y a aussi, moi par exemple, je me déplace beaucoup en vélo, mais c'est surtout pour aller faire mes courses.
Mais t'es un champion quand même, toi.
Mais je suis un champion quand même, ouais. Je vais vite pour faire les courses.
C'est vrai, vous avez eu des titres?
Des titres de...
En vélo?
Oui. J'étais champion sur la hare en fraise à Boulogne-sur-Mer. J'ai gagné aussi à Condette le tour de... En fait, c'était un bistrot, donc il fallait faire le tour du bistrot. Et ça, c'était en Drésienne, donc j'avais 4 ans. Et comme j'étais le seul, je suis arrivé premier.
Ah oui, forcément.
J'avais gagné une limonade.
Le tour du Mont-Soleil, tu l'as pas gagné, celui-là?
Le tour du Mont-Soleil, si, à Outreau.
Ouais, Outreau, oui.
Pas mal. Un beau palmarès, quoi.
Quand même,
oui.
Bah après, Guillaume en a gagné aussi pas mal. Hein.
C'est vrai.
Je suis plus modeste, je ne vais pas dévoiler.
Ah bon, très bien. Et puis dans ce nouvel album, il y a ce titre, Le Carrefour de l'Arbre.
Oui.
Donc un des plus gros secteurs pavés du Paris-Roubaix.
Oui. Bon, un des plus connus, avec il y a la Trouée d'Arembert, mais sinon c'est un des... c'est là où ça peut se jouer... où la victoire peut se jouer, oui.
Selon Patrick et Jean-Paul, il y a l'adage qui dit que si on sort premier du Carrefour de l'Arbre, on a de grandes chances d'arriver premier en Paris-Roubaix.
Voilà. C'est ce qui s'est passé, par exemple, cette année.
Et même l'année dernière aussi.
Donc souvent, voilà. Donc c'est un endroit qui...
Et il y a 3 ans, Wout van Aert, je pense, doit crever dans le secteur juste avant. Donc c'est un passage très important, oui.
On en parle un peu plus ou on laisse les auditeurs découvrir de quoi ce titre parle réellement?
On peut donner
quelques indices.
Non, on va la
jouer.
Oui. Eh ben, on y va. C'est parti. Voilà. Donc, le carrefour de l'arbre.
3, 4.
Je sens mon corps secoué, pantin squelette désarticulé. Je m'accroche à mon vélo, bien agrippé à mes boyaux. Dans cette course légendaire, fais gaffe de ne pas crever, car si tu gagnes cet enfer, ce sera pour l'éternité. La boue, la pluie
et la poussière auront raison des adversaires. Moi je m'en fous, je suis préparé, mon mental est en fer forgé. Carrefour de l'arbre, à la croisée des chemins, je graverai dans le marbre mon nom aujourd'hui pour demain. C'est diabolique, c'est mythique, c'est gravé dans les classiques, la dure des durs. C'est la Pascale, l'enfer du Nord sur piédestal. Ça y est, l'enfer est sur cette terre. Ceux pour qui c'est foutu se retrouvent dans la galère et deviennent des êtres déchus. J'en ai parlé à Evaldas le jour où il finit dernier. Je lui ai dit, tu es un as, car cette course tu l'as terminée. À la croisée des chemins, je graverai dans le marbre mon nom aujourd'hui pour demain. Au carrefour de l'arbre, à la croisée des chemins, je graverai dans le marbre mon nom aujourd'hui pour demain. C'est pas donné à tout le monde de rouler sur des rochers immondes. Et ce dernier, l'année d'après, fini neuvième et pas dernier. Et nous dans le Nord Pas-de-Calais, quand on est un peu chagriné, savez-vous ce que l'on fait? Dans la secteur, on boit le pavé.
Le nouvel album Nouveau Vélo du groupe Lillois Les Chasse-Patates est donc déjà disponible. N'hésitez pas à aller voir leurs clips sur leurs réseaux sociaux. Ça vaut le coup d'œil. Et ne manquez pas le concert des Chasse-Patates le 4 juillet au Grand Sud à Lille, la veille du départ du Tour de France. Ce sujet a été réalisé par Banquise FM. Interview Louise Petit, réalisation Jean-Baptiste Cotteret.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Au carrefour de l'art.
Radio Campus 106.6 sulla modulazione di frequenza e www.campuslille.com sulla rete.
Lady Anna aime se moquer du monde. Elle est emplie de bonheur et de joie. Elle danse et chante à tue-tête parfois. Lady Anna n'aime pas que je morfonde sur toutes les choses qui pour moi ne vont pas. Elle dit que moi je vaux bien mieux que ça, tout roule. Et la vie s'écoule. Quand on voit le monde à travers ses yeux, on sait dès qu'il est vraiment somptueux. Tout roule et les jours s'écoulent. C'est le bonheur qui abonde pour nous deux. Et tout est mieux quand on se sent heureux. Lady Anna de ses éclats innombrables. Toute personne en proie au désarroi sèche les pleurs de tout ce qui l'a moins. Lady Anna ne veut pas que je confonde ce que je prends pour un chemin de croix avec les conséquences de mes choix. Tout roule et la vie s'écoule. Quand on voit le monde à travers ses yeux, on se dit qu'il est vraiment somptueux. Tout roule et les jours s'écoulent. C'est le bonheur qui abonde pour nous deux et tout est mieux quand on se sent heureux. À dire qu'elle me sauvera de mes faux pas si je le souhaite et c'est sûr.